France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Tout à son rôle de faiseur de paix tel qu'il se l'est lui-même attribué, c'est aujourd'hui que le président Donald Trump doit officiellement présenter depuis la Maison Blanche un plan pour Gaza, tout en recevant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous serons sur place dès le début du journal. Avec notre invité, on parlera du retour des sanctions contre l'Iran 10 ans après l'accord de 2015 sur le nucléaire. On se rendra par ailleurs en Moldavie, où le parti pro-européen a remporté hier une solide victoire sur son rival pro-russe. Et puis l'actualité en France, et notamment l'institution judiciaire obligée aujourd'hui de se défendre elle-même face aux attaques proférées depuis le jugement contre Nicolas Sarkozy. Enfin, on détaillera la facture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, telle que réactualisée ce matin par la Cour des comptes. Avec une moyenne d'1 visite tous les 2 mois. Benjamin Netanyahou est donc à nouveau attendu à la Maison Blanche aujourd'hui pour un grand bol d'air. Non seulement le premier ministre israélien, bien que visé par un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est qu'il n'a rien à craindre sur le sol des États-Unis, mais il peut être rassuré par ailleurs quant à l'accueil, à n'en pas douter, chaleureux que lui réservera son ami et indéfectible allié américain. De quoi faire oublier l'humiliation subie lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies lorsque, hué à la tribune, son discours a ensuite été boycotté par la très grande majorité des délégués sur place qui ont décidé de quitter la salle. Reste que si Donald Trump n'a jamais, c'est vrai, remis en cause son soutien à l'État hébreu, ses fulgurances pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza ont eu tendance à varier durant ces 9 derniers mois, jusqu'à parfois ne pas être totalement aligné sur celle de son invité. Alors cette fois-ci, le chef de la Maison Blanche promet que, je cite, « quelque chose de spécial va être annoncé concernant le Moyen-Orient. Une première, comprenez, un plan de paix dont il aurait déjà fait la promotion et même obtenu l'aval de la plupart des pays du monde arabo-musulmans. Et bien entendu, toute la question est désormais de savoir si ce plan cochera ou non les cases du questionnaire à choix multiples avancé vendredi dernier par Benjamin Netanyahou pour justifier sa stratégie à la fois colonialiste et belliciste au Proche-Orient. Correspondance aux États-Unis signée de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry.
Il l'a martelé tout le week-end, devant les journalistes et sur son réseau social. Nous avons une réelle chance de réussir quelque chose de grand au Moyen-Orient. Donald Trump veut accomplir ce que personne n'a pu faire depuis 2 ans, sceller une feuille de route crédible pour mettre fin à la guerre à Gaza, avec le retrait de l'armée israélienne, le retour des otages et une autorité de transition avec, à terme, l'autorité palestinienne. Le président américain rêve d'un succès qui ferait de Washington un interlocuteur incontournable dans la région et de sa propre personne, le faiseur de paix qu'il voudrait tant incarner. Le premier ministre israélien, lui, est pris entre 2 feux. Ne pas céder pour ne pas braquer les ultranationalistes de sa majorité. Ne pas non plus tout refuser au risque de s'aliéner l'allié américain. La Cisjordanie sera au cœur des discussions. Donald Trump dit formellement refuser son annexion et ce veto offre paradoxalement une porte de sortie à Benjamin Netanyahou qui pourra dire « ce n'est pas moi qui refuse ». C'est lui.
Faute d'accord sur le nucléaire, les sanctions de l'ONU contre l'Iran sont de nouveau en vigueur depuis cette nuit, minuit.
Oui, toutes les réunions au plus haut niveau organisées la semaine dernière en marge de l'Assemblée générale de l'ONU n'ont pas permis de trouver de solution diplomatique. Et c'est ainsi qu'après le feu vert du Conseil de sécurité, la République islamique se voit donc imposer depuis ce matin de nouvelles pénalités allant d'un embargo sur les armes à des mesures strictement économiques. Alors sans craindre une forme de contradiction, européens et américains ont immédiatement assuré que cela ne marquait pas pour autant la fin de la diplomatie. Il demande par ailleurs à Téhéran de s'abstenir de toute action escalatoire, sauf qu'avant même le rétablissement formel des sanctions la veille, l'Iran avait déjà rappelé pour consultation plusieurs de ses ambassadeurs. Alors 10 ans tout juste après leur levée, le rétablissement de ces sanctions est-il de nature à dissuader l'Iran de ne pas enrichir d'uranium à un niveau proche du seuil technique nécessaire à la fabrication de la bombe atomique? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Rappelons peut-être pour commencer que l'accord de 2015 donc avait déjà très largement vacillé depuis que les États-Unis de Donald Trump s'en étaient retirés en 2018, que l'Iran avait par ailleurs repris ses activités d'enrichissement d'uranium. Malgré tout, quelle importance donnez-vous à la décision de ce week-end et est-ce qu'il faut en déduire que la perspective d'une solution diplomatique s'est définitivement éteinte ?
Bah écoutez, je crois que la première chose à dire d'abord, un petit peu à rebours de ce qu'on entend depuis quelques semaines, c'est que le rétablissement de sanctions s'inscrit toujours dans un dialogue diplomatique. Donc par conséquent, on est toujours dans une phase diplomatique. Ces sanctions ont frappé l'économie iranienne entre 2006 et 2015, presque. Et pendant ce temps, il y a eu d'intenses tractations diplomatiques qui ont conduit précisément entre 2012 et 2015 à la négociation, puis à l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire dont vous parlez. Donc on est bien dans cette phase diplomatique. La phase diplomatique, elle a repris à partir du cessez-le-feu, un peu brutalement imposé par la Maison-Blanche à l'issue de cette guerre des 12 jours de juin dernier. Est-ce que ça change véritablement la donne ? C'était attendu. On l'attendait depuis longtemps. Mais on n'a pas attendu les bombardements israéliens pour le savoir. Ce qu'on savait, c'est qu'au bout de 10 ans, il y aurait la possibilité de rétablir des sanctions si on activait le mécanisme dit de snapback, ou de rebond, ou de retour en arrière, un peu difficile à traduire en français, qui était prévu dans le mécanisme lui-même, dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 2015, qui l'accompagnait. Cela a finalement assez peu à voir avec ce qui s'est passé en juin, l'action de contre-prolifération armée israélienne. Les Européens ont attendu le plus longtemps possible pour réactiver ce mécanisme. Il est réactivé. On ne s'attendait pas à ce que les Iraniens modifient leur comportement du fait de cette échéance. Il s'est passé ce qui devait se passer. Finalement, c'est relativement implacable.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les sanctions d'un côté et puis les attaques menées par ailleurs par Israël et les États-Unis ?
Il y en a, mais c'est une relation relativement incidente, parce que de toute façon, les Européens, qui étaient les seuls en mesure de réactiver le snapback, devaient le faire avant octobre 2025, avec un certain nombre de délais bureaucratiques, etc., qui font que c'était cet été que ça se passait. Donc, quand bien même Israël n'aurait pas attaqué, il est fort probable que les Iraniens n'auraient pas progressé de manière significative dans leurs efforts de négociation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique cet été, et par conséquent, il y aurait eu un rétablissement des sanctions. En revanche, on peut penser que les Européens se sont saisis de l'occasion pour se dire « Tiens, puisque les Israéliens, aidés par les États-Unis, ont frappé, peut-être que le snapback risque d'avoir davantage d'effectivité, de réalité, que s'il n'y avait pas cette pression armée israélienne en arrière-plan.
Vendredi dernier, avant donc le vote du Conseil de sécurité, Moscou et Pékin avaient proposé une prolongation de l'accord. Le même jour, Téhéran a d'ailleurs annoncé un contrat de 25 milliards de dollars signé avec Moscou pour la construction de 4 centrales nucléaires en Iran. Est-ce que la rupture diplomatique entre donc la République islamique et puis les pays européens ne risque pas de conduire à renforcer cette alliance entre l'Iran et la Russie ?
Alors d'abord, cette résolution dont vous parlez était attendue. Là encore, ça faisait partie du mécanisme snapback lui-même de la résolution 2231. C'est-à-dire qu'on disait à l'époque, si une résolution n'est pas prise dans les 10 ans qui permet de reconduire pour 6 mois ou pour un temps donné le mécanisme de levée des sanctions, alors il y aura un retour des sanctions. Par conséquent, on savait qu'en miroir, les Russes et les Chinois allaient proposer une résolution de la sorte. C'était le minimum qu'ils pouvaient faire, d'une certaine manière. Ils ont fait ce minimum, qui est l'assistance diplomatique minimale qu'ils ont pu faire à leurs partenaires iraniens. Ils savaient eux-mêmes que ça ne donnerait pas lieu à une acceptation, mais plutôt à un veto des autres.
Une dernière question. Aussitôt, après l'annonce donc du rétablissement de ces sanctions, la monnaie iranienne a atteint son niveau le plus bas. Est-ce que cela veut dire qu'en atteignant profondément l'économie, la santé économique du régime iranien, en réalité, ces sanctions vont essentiellement pénaliser la population iranienne ?
Ben ça, mais les pauvres Iraniens, ils sont habitués depuis 20 ans, si vous voulez. Donc, de toute façon, ça va commencer par les frapper eux-mêmes. Mais je veux revenir aussi sur la deuxième partie de votre question précédente, qui est finalement liée à celle-là. L'effectivité des sanctions économiques contre la République d'Iran est difficile à mesurer. On sait par ailleurs, et vous l'avez noté, qu'un accord nucléaire civil, cette fois important, a été finalisé avec la Russie pour la construction de nouveaux réacteurs de puissance. Les Chinois eux-mêmes selon certains rapports, semblent avoir en tête l'augmentation de leurs importations de pétrole iranien. Et les Russes ont dit eux-mêmes que ce snapback était nul et non avenu. Et donc, on va voir une tension encore plus forte entre le soutien économique, commercial et financier des partenaires que sont la Chine et la Russie et les autres pays occidentaux de l'autre, avec tout un tas de pays au milieu qui vont devoir se positionner. Par conséquent, l'effectivité de ce retour des sanctions est tout de même très difficile à évaluer et va être donné lieu à une espèce de concurrence de narratif dans les mois à venir qui va être un espèce d'embroglio sans fin, quoi.
C'est bien compris. Merci Benjamin Haute Couverture, donc maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Loïse Guérin pour la préparation.
En Moldavie, les électeurs ont fini par trancher.
Oui, avec plus de 50% des suffrages, ils ont choisi de porter leur voix sur le Parti européen Action et Vérité plutôt que sur le bloc patriotique pro-russe, lequel recueille seulement 24% des suffrages, une victoire qui, au regard de la campagne de désinformation menée par Moscou, était loin d'être gagnée d'avance, qui plus est dans ce pays de tous les tiraillements, donc écartelés entre l'adhésion à l'UE d'un côté et puis ses liens historiques avec la Russie de l'autre. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors pour l'UE, dont certains d'ailleurs se demandaient si elle avait suffisamment soutenu les forces moldaves pro-européennes, c'est évidemment un soulagement et une bonne nouvelle, puisque non seulement ce scrutin aura permis d'écarter temporairement du moins la menace russe qui risquait de plomber un flanc crucial du flanc du vieux continent, mais aussi de renforcer la base arrière de l'Ukraine.
Absolument, et pour toutes ces raisons, c'est une grande satisfaction qui domine ce midi dans les institutions européennes. L'eurodéputé social-démocrate Emma Rafovic parle même d'une grande joie.
C'est un vrai choc aussi pour Poutine. On voit que après avoir investi des milliards finalement pour casser la démocratie en Europe, en Moldavie, eh bien la démocratie, elle peut tenir. Les citoyens, ils tiennent. Et les Moldaves, ils ont montré que finalement les milliards de Poutine ne suffisaient pas à les faire renoncer à la démocratie.
La victoire du camp européen en Moldavie résonne tout particulièrement auprès des représentants d'autres pays de l'Est de l'Europe, premiers exposés aux ingérences russes. Cet eurodéputé centriste roumain, Dan Barna, y voit un signe d'espoir.
Le fait que les citoyens moldaves fassent preuve d'une si grande résilience face à cette guerre hybride, cela constitue un bon exemple pour la Roumanie, pour les pays d'Europe de l'Est et même pour toute l'Europe.
L'Union européenne espère maintenant pouvoir accélérer l'intégration de la Moldavie prévue d'ici 2030.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Autre illustration de cette stratégie d'intimidation distillée aujourd'hui par la Russie après une nouvelle mystérieuse incursion de drones la nuit dernière au-dessus de sites militaires. Le Danemark a choisi d'interdire à partir ce matin les vols d'appareils civils sur son territoire. La seule alternative possible en réalité pour éliminer le risque des engins ennemis puissent être confondus avec des drones légaux, et ce à quelques jours seulement de l'organisation d'un sommet européen à Copenhague.
On peut mieux faire, l'Europe doit accentuer ses efforts pour sauver sa nature.
Selon un rapport sur l'état de l'environnement sur le vieux continent, l'Europe, pourtant plutôt bon élève dans la lutte contre le changement climatique, doit faire plus et mieux pour augmenter encore sa résilience face aux effets du réchauffement. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
En clair, si des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'état général de l'environnement en Europe, Véronique, lui, n'est pas bon.
Oui, dans une Europe qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, les voyants sont en rouge quand on évoque la protection de la biodiversité, la lutte contre les pollutions, l'économie circulaire ou encore les ressources en eau. Le rapport insiste sur l'état des cours d'eau à la fois dégradés par la surexploitation agricole et la pollution industrielle. 62% des masses d'eau ne sont pas dans un bon état écologique. Des économies d'eau aussi seraient souhaitables et possibles, dit l'Agence européenne pour l'environnement, car il y a beaucoup de gaspillage. Avec une meilleure gouvernance, une sensibilisation du public sur ce gaspillage, des efforts, notamment dans l'agriculture, l'Europe pourrait économiser 40% d'eau. Il y a aussi une vraie menace sur cette ressource en eau, puisque un tiers du continent et de sa population manque déjà d'eau, selon le rapport. Sur ce sujet, l'Agence européenne aussi émet un doute sérieux sur le recours à l'énergie nucléaire, qui demande beaucoup d'eau pour son refroidissement. L'alerte est aussi très forte sur l'état de la biodiversité. Son déclin est général, sur mer ou sur terre. 60 à 70% des sols sont dégradés et 81% des habitats protégés sont dans un état médiocre ou mauvais. Or, pas de compétitivité sans une nature en bon état. L'agence fait vraiment passer le message. Le changement climatique et la dégradation de notre environnement naturel compromet notre prospérité, notre sécurité, notre résilience. Les preuves présentées montrent que nous devons protéger notre environnement pour assurer un avenir sûr aux Européens, plaide l'agence européenne.
Merci Véronique Robérotte.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Sébastien Lecornu se prépare à affronter une semaine que beaucoup entrevoient déjà comme décisive, au cours de laquelle il devra notamment dévoiler son gouvernement, ce qui suppose de trouver la clé d'une équation complexe s'il veut éviter la censure, mais aussi affronter sa troisième journée de mobilisation populaire et syndicale. Ce sera jeudi prochain, sans compter que c'est aussi dans l'ombre de ces tractations budgétaires que l'Assemblée nationale s'apprête, elle, à renouveler ses postes clés et notamment son bureau, la plus haute instance exécutive chargée d'apprécier, entre autres, la recevabilité des textes des parlementaires. Après que dans la foulée de sa condamnation, Nicolas Sarkozy a dénoncé un complot et après que plusieurs responsables politiques à droite et à l'extrême droite ont remis en cause l'impartialité des magistrats, voilà que les attaques contre l'autorité judiciaire se font désormais de plus en plus violentes jusqu'aux menaces de mort proférées contre la présidente qui a énoncé le jugement contre l'ancien chef d'État. Florence Thiam, bonjour.
Bonjour.
Une enquête a été ouverte à ce propos par le parquet. Hier, c'est le président Emmanuel Macron lui-même qui est sorti de son silence pour dénoncer, je cite, des attaques inadmissibles. Et ce matin encore, Florence, ce sont deux des plus hauts membres de l'institution judiciaire qui ont choisi de prendre la parole.
Oui, à commencer par Peymann Galé-Marzban, le nouveau président du tribunal judiciaire de Paris, qui en juillet dernier avait déjà publié un communiqué dénonçant l'opprobre jeté publiquement sur les magistrats, alors par la ministre de la Culture, Rachida Dati.
Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est grave. C'est une véritable dérive dans notre démocratie. C'est la deuxième fois en un an que nous sommes dans cette situation-là, puisque ce fut la même chose dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National. Ça devrait interroger l'ensemble des citoyens.
Peymann Galé-Marzban, qui sur l'antenne de France Inter a aussi rappelé que le mandat de dépôt est massivement utilisé par les tribunaux en France et que les avocats avaient durant toute la procédure la possibilité de soulever cette question d'impartialité de la magistrate qu'il pointe aujourd'hui. Exercice donc de pédagogie et argument de droit, repris également chez nos confrères de RTL par le patron du PNF, le parquet national financier, Jean-François Bonnert.
Avant d'en arriver au jugement qui a été rendu la semaine dernière, il n'y a pas moins d'une centaine de magistrats qui s'est penché sur le dossier du financement libyen de sa campagne. Je rappellerai que, à l'initiative notamment de Nicolas Sarkozy et de sa défense, il y a eu pas moins de 22 décisions de la Cour d'appel et 15 décisions de la Cour de cassation qui ont toutes validé le cheminement qui a conduit au jugement qui a été rendu. Notre boussole, c'est le droit, c'est la règle de droit. Moi, ce que je retiens, c'est l'indépendance d'analyse du tribunal.
Le parquet national financier, lui, continue d'analyser les 400 pages de jugement avant de décider de faire ou pas appel de cette décision qui n'a pas retenu les mêmes charges que celles portées par l'accusation. Nicolas Sarkozy, lui, a rendez-vous au PNF le 13 octobre prochain en vue de sa prochaine incarcération.
Merci Florence Sturm. Air France et Airbus sont-ils responsables d'homicide involontaire dans l'affaire du crash du vol à F447 Rio-Paris, 16 ans après le drame qui a fait 228 morts, la compagnie aérienne et le constructeur relaxé en première instance sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui et pour 2 mois.
Un bilan satisfaisant mais un héritage à évaluer dans la durée.
Oui, dans un rapport publié ce matin, la Cour des comptes estime plutôt modeste à ce stade l'impact économique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d'autant que les juges ont finalement réévalué à la hausse la facture public de l'événement, 6,6 milliards d'euros contre 5,9 dans sa première estimation, un calcul Emma Sarango largement contesté d'ailleurs par les organisateurs.
Il y a en fait un vrai désaccord de méthode. La Cour répond à la question posée par le Parlement, combien l'État a-t-il dépensé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Alors que le comité d'organisation lui dit, il faut compter ce qu'on a dépensé parce que les Jeux étaient à Paris, donc en plus de ce que l'on aurait dépensé pour Los Angeles ou pour Brisbane. Un exemple, le programme Ambition Bleue, voué à rapporter des médailles à l'équipe de France, eh bien dit-il qu'au jeu, de toute façon, le ministère des Sports aurait alloué une enveloppe aux athlètes tricolores, certes moins importante, vente. Mais dans ce cas, ce n'est que l'excédent qu'il faut prendre en compte. Or, logiquement, avec ces deux méthodes opposées, le résultat n'est pas du tout le même. 6,6 milliards selon ce rapport, trois fois moins selon le COJO. Autre regret des organisateurs, la Cour ne prend quasiment pas en compte les recettes liées au JO. Pour l'instant, l'impact économique des Jeux est modeste, conclut le rapport, à peine une hausse de 0,07 point du PIB. Il faudra du temps pour évaluer les retombées. Une première évaluation de la Cour est prévue en juin prochain.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert des Pays de la Loire au bassin parisien, en passant par les côtes de la Manche, ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alix Forgeot. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.